franceinter.fr.
Bonjour. Jeudi dernier, le 4 mai, 23 millions d'électeurs algériens étaient appelés aux urnes pour élire leurs députés. On ne peut pas dire que ces élections aient passionné les foules. En fait, elles n'ont fait que confirmer plusieurs choses. Tout d'abord, le désintérêt d'une large partie de la population pour un scrutin joué d'avance et qui n'a fait que confirmer la prédominance du FLN et de ses alliés. Un électeur sur trois seulement est allé voter. Autre constat, le fossé n'a cessé de se creuser entre une jeunesse qui constitue la majorité de la population et qui aspire à un renouveau de la vie nationale et une direction issue de la guerre d'indépendance mais dont la légitimité n'a cessé de s'éroder sous le coup des scandales de corruption, du népotisme. Symbole de ce régime, Abdelaziz Bouteflika, le chef de l'État. Il est au pouvoir depuis 1999, il en est à son quatrième mandat consécutif. Depuis l'AVC qu'il a subi il y a 4 ans, il n'apparaît plus qu'exceptionnellement en public. Et c'est en chaise roulante et la main guidée par un autre qu'il a pu glisser son bulletin dans l'urne ce jeudi. Alors, dans cette situation de gel que l'on pourrait tout à fait comparer à celle de l'Union soviétique dans les dernières décennies de son existence, eh bien, les Algériens expriment de plus en plus ouvertement leur impatience et leur colère. Cette colère, elle est cristallisée en ce moment par le chantier gigantesque lancé par le président Bouteflika à Alger. C'est la construction d'une mosquée dont le coût a déjà largement dépassé le milliard d'euros. Algérie, ce pays jeune que les vieux gouvernent, c'est un reportage de Christian Chesneau et Pierre Quintard.
Interception, le magazine de la rédaction.
J'habite à Bidjer, de la Kabylie.
Vous faites quoi dans la vie ?
Je suis commerçant. Il n'y a pas de construction, pas d'usine, quelque chose qui va créer l'activité. Il n'y a pas ça. Vraiment, c'est la crise. C'est la crise. Il y a beaucoup moins d'argent pour nous, il y a beaucoup moins d'argent.
Là, on est sur un centre commercial, c'est moderne. Juste à côté, il y a ce chantier de la grande mosquée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que c'est une bonne idée ?
Moi, non, je suis vraiment contre. Au lieu de construire une mosquée, on aurait dû construire des grands hôpitaux et on a besoin. Pourquoi gaspiller tant d'argent pour rien? Moi, je pense que ça ne sert à rien. Trop gros, beaucoup d'argent, beaucoup de gaspillage. Faire une grande mosquée, ça sert à quoi?
Dans Alger, on ne voit que lui, le minaret de la future grande mosquée, déjà surnommée par les Algériens la mosquée Bouteflika, culmine à 250 mètres de hauteur. Une prouesse technique, mais c'est surtout l'occasion de dépasser dans le livre des records le minaret de la mosquée Hassan II à Casablanca, au Maroc. L'ambition du président Bouteflika est de laisser un édifice pharaonique à Alger pour couronner son règne. Une fois achevé, la mosquée sera la troisième plus grande au monde après celle de la Mecque et de Médine en Arabie Saoudite. Elle pourra accueillir plus de 120 000 fidèles, mais sa construction est controversée chez les Algériens.
Bon, c'est monsieur Karim, je suis un petit industriel, la zone industrielle à Boumardès.
C'est ici à Alger ?
À Alger, à 35 km d'Alger.
Alors là, on est sur une zone commerciale assez moderne, ouais. Et puis juste derrière, il y a un grand chantier de la mosquée d'Alger.
La grande mosquée.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est une bonne idée ?
Non, je suis contre ça. Vous savez, d'après les statistiques, d'après les journaux et tout, ça va coûter plus de 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars avec la crise économique, il peut faire presque 70 hôpitaux, il peut faire des constructions avec la crise qu'on a en Algérie. Moi, personnellement, je suis contre ce projet.
Vous pensez que ce n'est pas la priorité ?
Ce n'est pas la priorité. Il y a beaucoup de priorités que ça. Presque 80% des Algériens, ils sont contre ce projet, sincèrement.
On aurait pensé à un hôpital mieux, un hôpital, des hôpitaux, des écoles pour handicapés.
On a une très grande crise... Le logement, les autoroutes sont cassées, beaucoup de vols.
Mais quand même, le président Bouteflika, quand même sous son règne, il a construit quand même beaucoup de logements, il a quand même fait beaucoup d'infrastructures ici en Algérie. Ça a bougé quand même.
D'accord, on ne dit pas le contraire. Mais il y a des projets mieux que ça. Ça, comment dirais-je, jeter de l'argent par les fenêtres.
Ces dernières années, qu'est-ce que vous retenez de ces années Bouteflika, il y a quand même malgré tout eu la sécurité et du développement quand même, non?
C'est vrai. Mais moi, je ne vous cache pas. Sincèrement, j'ai perdu l'espoir en Algérie. D'après ce qui se passe en Algérie, Bon, on est dans le domaine de l'industrie. Trop de corruption, Il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout.
Vous pensez qu'il faudrait du changement ici?
Bien sûr, un grand changement. Il faut un très, très, très grand changement. Il faut un sacrifice pour ce pays. Parce qu'un pays qui, comme le nôtre, on est classé le sixième au gaz. On a le pétrole. 2 450 000 kilomètres. On a des côtes abandonnées. Un pays le sixième au gaz au monde. Et avec cette crise économique, les gens, regardez les couples, regardez-les. Ils n'ont pas où aller. Il n'y a pas de mariage. Ils ne peuvent pas se taper une maison, ils ne peuvent pas se taper une voiture, ils ne peuvent pas se taper beaucoup de choses. Ils n'ont pas de liberté.
Justement, vous sentez que le pays devient plus conservateur sur le plan des mœurs?
Oui.
Et cette mosquée, c'est un peu aussi le symbole?
Oui. Voilà.
C'est un signe de religion, quand même.
C'est l'exemple. Et attention, même l'intégrisme, maintenant, ce que j'ai remarqué, hein, l'Algérie, moi j'étais dehors, à l'étranger, l'Algérie, il y a beaucoup de changements. Même l'intégrisme, je pense que... Bon, je ne suis pas contre le hijab, je suis musulman, pratiquant. Même les femmes, maintenant, une femme, si elle ne fait pas le hijab, c'est un petit problème. C'est une question de mentalité, c'est une question de... C'est tout.
Bon, bah écoutez, monsieur et madame, bon courage, bon café.
Merci. On vous a dit, vous voulez vous inviter.
Une dernière phrase, on a réussi à vaincre le terrorisme, mais on n'a pas réussi à vaincre l'intégrisme.
C'est ça, c'est-à-dire qu'au niveau de la sécurité, c'est bon.
C'est bon, mais la mentalité reste la même. On est des gens, on est une petite catégorie qui essaie de vivre dans le groupe, seul.
Circuit fermé,
parce que... On est mal compris, on ne peut pas, voilà. Nous, on part à la plage, on aime voyager et tout. Mais là, il y a plein de gens qui sont contre tout ça.
Et la classe moyenne, elle existe ici en Algérie?
Non, il y a la grande... Enfin, on fait partie de la classe moyenne.
La classe moyenne, oui.
Voilà, on peut
mais
dire qu'on fait...
Mais d'ici 2-3
heures, il n'y aura plus de classe moyenne.
C'est-à-dire que les riches sont plus riches, les pauvres plus pauvres?
Ils sont plus pauvres. Voilà, c'est malheureux pour un pays aussi riche.
Un pays de jeunes.
Voilà. L'avenir est limité parce que là, c'est une question de mentalité. C'est plus maintenant une question de politique. Exactement. C'est une question de mentalité. Je pense qu'il faut revoir un petit peu l'éducation. Il faut aller vers les écoles et revoir un petit peu l'éducation. Nous, nos enfants sont dans des écoles privées, bilingues. Eh bien, ils ne sortent pas. On a peur pour eux.
Il n'y a pas où aller aussi. Ouais. Il n'y a pas où aller.
Les quartiers n'ont pas de parc. On ne peut pas faire du sport. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Des fois, on s'ennuie, on prend les enfants. Je fais 400-500 kilomètres. Oui, monsieur, les week-ends, on ne descend pas de la voiture. On va manger pour 5 minutes.
Et on revient.
Il
y a une classe en Algérie qui ne se sent pas en sécurité dans des lieux publics. C'est une question de mentalité.
Mais d'éducation aussi.
C'est la mentalité. Bon, ok, peut-être le conservatisme religieux,
voilà.
Mais... En termes de sécurité, c'est pas la délinquance, c'est pas parce que là on s'est baladé partout, c'est tranquille.
Notre président a fait beaucoup dans ce domaine.
Oui,
et vraiment, il fut un temps, on pouvait pas sortir, nous les femmes, on lui tire chapeau. Sur ce que vraiment, il faut dire les choses comme elles sont. On pouvait pas prendre un café comme ça. Moi, je partais travailler au ministère. J'étais obligée de mettre un foulard dans mon sac, me déguiser, malgré que je le mettais pas. Quand j'arrive au bureau, je l'enlevais. C'est pour éviter qu'on m'agresse, qu'on me tue et
vous
tout.
Vous dépendez aux gens.
Ah oui. Mais maintenant, plus ou moins, on part à la plage, on part à la piscine. Mais ça reste quand même, on est une minorité qui essaie de vivre sa vie, comment dirais-je, à l'occidental, mais très discrètement. Je viens de le dire, le terrorisme n'existe plus, peut-être, en Algérie. Mais l'intégrisme reste dans l'être.
C'est une question de mentalité.
Question de mentalité.
Nasser Djabi, je suis sociologue, je suis universitaire, prof de sociologie politique à l'Université d'Alger jusqu'en 2016. Je suis maintenant en retraite.
Quand on arrive à Alger, on ne peut pas manquer de tomber sur cette grande mosquée, ce chantier de la grande mosquée d'Alger, la mosquée Bouteflika. C'est quoi le message ?
C'est un peu le mimétisme. C'est-à-dire, Bouteflika a vécu au Maroc. Il est très imprégné un peu de la vie politique, symbolique du Maroc. Donc, Hassan II a eu sa mosquée, Bouteflika veut avoir sa mosquée. Et ça a été décidé pendant les périodes où il y avait un baril à 120, 130, 140 dollars. Donc, il voulait faire des grands projets qui vont rester après lui. Donc, c'est un peu du symbolisme politique.
C'est le prestige.
C'est le prestige, oui. Les gens ne sont pas contents. Les Algériens parlent beaucoup de cette mosquée. Ils disent qu'avec le prix de cette grande mosquée, on pouvait faire beaucoup de choses plus intéressantes, des hôpitaux, des infrastructures, des universités. Mais la décision a été prise de faire cette mosquée qui est financée par l'argent public et qui est faite par les Chinois. C'est même pas des sociétés algériennes qui travaillent, qui gagnent un peu dans ce fameux projet. Donc c'est les Chinois qui profitent. Les Chinois profitent énormément dans le domaine de la construction des logements, dans l'infrastructure, les barrages, les routes, la mosquée. C'est les grands gagnants, les Chinois, dans cette affaire d'argent.
Et quid de la diversification économique qu'on nous promet depuis des années en Algérie ? Est-ce que ça avance ou pas du tout ?
Ça bloque. On a un système bancaire très soviétique, très centralisé, administratif. Les grandes décisions dans le domaine de l'agriculture, malgré moindre d'échecs avec l'agriculture, mais au niveau industriel, on n'arrive pas à venir. On n'arrive pas à voir un peu les fruits de cette diversification. On reste encore sur les grandes décisions, les grands scénarios, mais on n'arrive pas à venir. On n'a pas de voiture algérienne, on n'a pas une industrie mécanique, on n'a pas un tourisme, on n'a pas une... l'économie algérienne reste une économie parmi les plus centralisées au niveau de l'Afrique du Nord, les plus centralisées, les plus publiques, et les plus centralisées et les moins diversifiées par rapport au Maroc, Tunisie, Égypte.
Et toujours très dépendante du pétrole et
oui,
du gaz.
Oui, oui.
Donc si les cours s'effondrent ou baissent...
Comme c'est le cas maintenant, avec moins de 50 dollars le baril, c'est plus de 60% des revenus qu'on n'arrive plus à avoir.
Ils continuent à subventionner les produits de première nécessité ?
Jusqu'à 2016, 2017. Ça va être plus difficile encore en 2018 et en 2019. Ça va être difficile et ça va être peut-être le choc quand les Algériens s'apercevront qu'ils ne pourront plus acheter leur pain ou leur lait ou leur subventionner comme ils le font jusqu'à maintenant.
Comment sortir du tout pétrole qui a permis de financer l'État-providence pendant des décennies ? Avec la chute des cours du brut depuis 2014, les réserves de change ont fondu. Les perspectives s'annoncent difficiles si le prix du baril ne remonte pas durablement au-dessus de 50 dollars. Dans ce contexte financier tendu, l'Algérie s'ouvre timidement à l'économie numérique. C-Labs est le premier incubateur privé de start-up. Il est situé derrière la Grande Poste d'Alger, nous allons rencontrer des jeunes entrepreneurs qui travaillent d'arrache-pied pour donner vie à leur projet.
Alors bonjour, Mehdi Terek, 26 ans, presque 27. J'ai étudié en Algérie. Je travaille ici dans le domaine marketing, dans l'agroalimentaire. Par la suite, j'ai obtenu une bourse pour Paris Dauphine, où j'ai obtenu un diplôme en administration des entreprises. Donc à la fin de mon cursus, j'ai eu deux choix, soit travailler en France, soit revenir en Algérie. Et donc le choix, c'était revenir en Algérie et me lancer dans un projet d'entreprise service à la personne, étant donné que le marché est inexistant ici et qu'on est pionnier.
Est-ce que le problème finalement de l'Algérie, c'est qu'il y a une malédiction du pétrole, c'est-à-dire que les le gaz, le pétrole, ça a donné beaucoup d'argent, et puis finalement, ça a un peu anesthésié toute l'économie, quoi. Et maintenant, le secteur privé, il faut qu'il perce, c'est compliqué après 50 ans de pétrole.
Alors, malédiction, je dirais pas ça. Je dirais C'est un couteau à double tranchant, en fait. Voilà. Donc, on a le pétrole qui était une bénédiction, donc période post-indépendance et les années 90, etc. Donc, ça a permis de remplir les caisses de l'État. Après, oui, il va falloir, maintenant, il est grand temps de réfléchir aux hydrocarbures. On a, par exemple, l'exemple du Maroc à côté qui se débrouille magnifiquement bien, l'exemple de la Tunisie aussi. Donc, nos voisins qui se débrouillent magnifiquement bien sans pétrole. Après, il y a le secteur privé qui paye les frais, je dirais pas ça. Je dirais le secteur privé qui s'est plus orienté qu'à l'importation. Pardon. On importe, on vend, on importe, on vend, on importe, on vend. Tout le monde est habitué à ça. Donc, il va falloir, c'est là où je vous ai parlé d'éducation, il va falloir matraquer. Voilà, il n'y a pas que l'importation. Hein. On peut produire localement, on peut faire tout ce qui est agricole, faire des services à la personne, etc. Donc, malédiction, je dirais pas ça. J'ai couteau à double tranchant et qui nous a permis de prendre conscience actuellement qu'on a un manque sur certaines industries.
Donc là, vous avez de l'espoir, vous êtes vous sentez que là, il y a vraiment des choses à faire, à créer ici en Algérie.
Alors, je vais pas jouer du violon, hein, mais je peux vous dire, par exemple, quand vous voyez un espace de coworking comme ça, que vous voyez des jeunes qui sont en train de lancer des projets, il y a de l'ambition, il y a de la niaque, un peu comme on le dit. Donc oui, j'ai espoir. Après, je vais pas me mentir, c'est que ce type de personne, ce type d'individu représente 0, enfin on va dire 1% de la population, de la jeunesse. Mais c'est là où il faut qu'il y ait un travail de sensibilisation et de dire voilà, ça, si tu cherches un job, faut faire comme ça. Tu cherches un job, faut créer ton propre emploi. Tu cherches un job, faut travailler dur, etc. Donc oui, j'ai l'espoir. Il y a du travail à faire, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est pas perdu quoi.
Alors, je suis Esma Mortari. Alors, je suis architecte de formation, mais je travaille actuellement avec le Centre algérien d'entrepreneuriat social. Et donc, c'est un centre qui a été créé en 2013 et qui a pour but de faire connaître l'entrepreneuriat social, de faire découvrir aussi les entrepreneurs sociaux qui existent en Algérie. Nous avons créé une start-up, mon équipe et moi. Et donc, voilà, pour lancer divers programmes, dont un programme de formation dédié aux étudiants.
Il n'y a que des femmes, finalement, dans votre équipe ?
On va pas quand même oublier le seul homme qui travaille avec nous, mais nous sommes majoritairement des femmes dans l'équipe, oui.
Vous sentez qu'il y a peut-être un choc de génération en Algérie entre finalement cette vieille classe politique, un peu rouillée, j'allais dire, peut-être un peu à l'image du président Bouteflika qui est malade, un petit peu dans son fauteuil roulant, et puis cette jeunesse qui a envie de faire des choses. Vous sentez qu'il y a un peu un choc?
Alors, peut-être pas un choc, mais disons un manque de communication. Parce que si on voit un petit peu les projets politiques qui encouragent l'émergence de start-up, qui encouragent les jeunes, il faut pas nier qu'il existe beaucoup de dispositifs d'aide à la création d'entreprises qui n'existent nulle part ailleurs. Il y a l'aide des politiques, il y a l'initiative des jeunes, l'énergie des jeunes, mais il y a un manque de communication entre les deux. C'est ce manque-là qu'il faut combler, il faut créer des ponts entre les deux. Il y a des initiatives dans ce sens-là, mais qui restent quand même insuffisantes.
Et est-ce que vous sentez que justement la relève arrive, que les jeunes sont en train, j'allais dire, pas de prendre le pouvoir, parce que le pouvoir il est déjà monopolisé par l'ancienne génération, mais il y a quand même des forces vives qui arrivent?
Oui. Moi je pense que je fais partie de la génération qui bouge vraiment, et je vois beaucoup d'initiatives de jeunes. Les jeunes ne se découragent pas du tout, mais vraiment, on voit des initiatives qui sont bénévoles parfois, qui n'ont aucune rémunération derrière, et les jeunes bougent. Ils n'attendent personne pour agir. Donc, je pense que le fait que, on va dire, l'ancienne génération ait des références et une manière de faire qui est archaïque, enfin, peut-être pas archaïque, mais dépassée, on va dire, ça a encouragé les jeunes à prendre la relève et à agir. À Alger, oui, ça bouge énormément. Il y a beaucoup d'initiatives nationales, ça c'est important. Ça ne vient pas de l'étranger, elles sont nationales et il faut bouger, il faut entrer dans cette dynamique, sinon on se retrouve comme les générations d'avant, on est dans le même, on sera dans le même camp, dans le même wagon, qui est toujours dans la gare, qui ne bouge pas.
Merci.
Je vous en prie, merci à vous.
Dans le centre-ville d'Alger, à côté de la rue Didouche Mourad, le club de gym, le Sobi Fitness, accueille 1600 membres, hommes et femmes. On vient ici se défouler, oublier les soucis quotidiens. C'est un peu une bulle de respiration dans une Algérie gangrénée par la crise économique et le désespoir des jeunes. Nous allons rencontrer le patron du club. L'entraîneur principal de ce club.
De ce club, oui.
Et là, les gens, ils arrivent plutôt vers en fin d'après-midi, c'est ça?
Vers 18h, 17h plutôt. 17h jusqu'à 21h, toujours à la salle. Ils viennent s'entraîner, musculation, il y a cardio.
Même les femmes font de la musculation
aussi. Même les femmes. Hein. C'est comme en Europe. Hein. C'est un changement parce qu'on est en Algérie, tu sais, un problème de mixité, tout ça, c'est un peu, c'est pas facile. Il y a les femmes, les hommes, tout ça, et ça joue.
Ça, c'est assez unique ici d'avoir un club mixte.
Non, je pense qu'il y a pas mal de salles, et c'est mixte. Mais je pense que c'est pas toutes les salles, parce que c'est des salles uniquement hommes. Ça veut dire, il y a des séances hommes et des séances femmes.
Alors, ici, on fait des séances mixtes.
Mixtes. Pas toutes les séances. Il y a des séances, c'est mixte, il y a des séances uniquement des femmes. C'est-à-dire la journée, tout ça. Avant, c'était uniquement hommes, femmes, séparés, tout ça. Mais maintenant, ça commence à changer.
Ça va dans le bon sens.
Ah oui, c'est ça, bon sens.
Mais les islamistes, ça les embête pas, ça, ça
ils... Non. Même il y a des islamistes qui viennent s'entraîner. Hein. Il y a des femmes qui portent le voile, tout ça, ils viennent s'entraîner librement. C'est pour ça qu'il y a un changement par rapport aux années précédentes. Il y a un changement.
Parce que sinon, c'est quoi les distractions à Alger? Il n'y a pas grand-chose.
Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas où aller aussi. Pour les femmes aussi, il n'y a pas. Il n'y a rien.
Il n'y a que le sport.
Il n'y a que le sport. Qui peut aller, là, les gens peuvent aller loin. Peut se relâcher, peut se... Des connaissances, il y a beaucoup de choses. Pas uniquement au sport. Des gens, ils connaissent des gens, ils font des relations, des amitiés, tout ça.
Tous les âges, tous les sexes, voilà,
tous les métiers,
ouais.
Les métiers aussi.
Parce que les gens qui viennent
là. Il y a
des
médecins, il y a des.
C'est ça, les gens qu'on voit là. Il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes. Ils viennent d'où? C'est des gens du quartier?
Non, il y a partout, hein, dans l'ensemble.
Ils viennent de tout Alger.
Tout Alger, ils viennent.
Merci, ouais. Faisal.
Ouais.
D'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter?
Jeune fille de 29 ans, algéroise, je travaille et voilà.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis responsable des finances dans une entreprise privée.
Ici à Alger?
Oui, toujours.
Et donc là, vous venez souvent à ce club de gym?
Ça fait maintenant 2 ans, oui, que je suis adhérente à ce club-là, oui.
Et qu'est-ce que vous trouvez? Pourquoi vous venez ici?
Au départ, c'était un moyen de déstresser parce que j'ai des journées plutôt chargées. Donc, c'était un moyen pour moi de déstresser en fin de journée. Et aussi parce que c'est le seul club qui accepte les femmes en fin de journée. Voilà. Parce que la plupart des clubs ici, en fin de journée, il n'y a que des mecs qui sont acceptés. Pour les horaires de 18h jusqu'à 20h.
C'est que des hommes?
Ouais.
Et là, c'est mixte?
C'est la seule salle aux environs d'Alger Centre qui accepte les femmes, oui.
Et à votre avis, les gens viennent aussi un peu pour oublier les soucis quotidiens ici?
Aussi, oui. Là, par rapport, des fois, quand on s'échange quelques phrases, oui, on ressent ce besoin de venir s'évader ici pour oublier les soucis de la journée. Oui.
Parce que vous sentez que la vie quotidienne est dure pour les Algériens en ce moment?
Non, pas forcément. C'est juste que c'est un quotidien, comme tout humain, comme toute nation. On a nos soucis de la journée, on a besoin de s'évader la fin de journée. Voilà.
Vous sentez que ça va mieux quand même?
Oui, oui, bien sûr.
Ça est...
On évolue. Il y a une certaine ouverture d'esprit. On évolue, voilà.
Et là, vous venez toute seule ou avec des amis?
Pour ma part, oui, je viens toute seule. Je me suis fait des amis ici, directement.
Et question un peu piège, mais les élections, ça vous intéresse ou pas du tout?
Pas du tout. Pour ma part, je parle en mon nom, non, ça ne m'intéresse pas.
Pourquoi?
Ça a toujours été un domaine qui ne m'a jamais inspiré, donc oui, pour donner ma voix, non, pas en ces conditions-là.
Parce que vous pensez que les programmes ne sont pas crédibles ?
Oui, malheureusement.
C'est un peu triste, quand même.
Ben, on espère que ça va changer. On garde toujours espoir. Voilà. On est là aussi pour, comme des jeunes, à faire de notre maximum pour que ça change aussi. Même si pas... Même, oui, vous me direz, oui, il faut voter pour... oui, mais ce n'est pas les bonnes conditions. Il faut avoir les bonnes conditions aussi pour faire entendre sa voix.
Vous pensez que les conditions ne sont pas réunies pour que les gens puissent s'exprimer ?
Malheureusement.
Vous faites partie du premier parti algérien, les abstentionnistes.
Exactement. Et je le revendique.
Vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme vous ?
Oui. Oui. Par rapport aux échanges sur les réseaux sociaux, on ressent que... ouais. La jeunesse en a marre, elle a envie d'évoluer et s'il y a lieu de faire des élections, faire un choix, que ce soit fait dans des règles bien transparentes. Donc
c'est-à-dire que la politique ne changera pas votre quotidien ?
Pas du tout. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
Cette fin d'après-midi, c'est un derby de football qui se joue au stade olympique du 5 juillet. L'USM d'Alger rencontre l'USM d'El Arach. Ici, le foot est une passion, presque une religion. C'est aussi un exutoire pour une jeunesse souvent désœuvrée.
Ah mais on rentre pas dans le stade.
On rentre pas, on est interdit. C'est la police qui nous a dit maintenant.
J'ai le ticket.
Ah ben non, on n'a pas de ticket, ils ne veulent pas qu'on...
Invitation.
Non, on n'a rien.
On a fait 8 ans.
Autour du stade, des vendeurs proposent drapeaux et casquettes pour les supporters, l'occasion d'améliorer les fins de mois.
10 000 casquettes, il y en a 10 000. Moi, je suis pour le grand club d'Alger, le Mouloudia d'Alger. Et je vends les trucs de l'USMA d'Alger. C'est un grand match.
Et vous venez tout le temps vendre des casquettes ?
On vient tout le temps vendre des casquettes, on vient tout le temps vendre des trucs de football, comme pull, comme t-shirt, comme écharpe.
Ça vous fait un petit business ?
Pas tellement, vu le niveau de vie en Algérie, tu sais, c'est sévère un peu par rapport à d'autres pays africains, mais nous on se débrouille, parce que nous sommes des gens de la capitale.
Et vous faites quoi comme métier ?
Moi, je suis retraité, je suis un technicien en art graphique. Je suis un TS en art graphique, 34 ans de l'université. Avec ma pension de retraite, je ne peux pas faire face à mes besoins, mes responsabilités. Alors je me débrouille comme ça. Lorsqu'il s'agit d'un grand match, je me vends des écharpes, je vends des trucs comme ça.
10 000 frouya, saut, casquette à tête, 30 000 à 10 000. Addi wahda, lou kan djouzou l'épaule, t'ba 30 000-40 000 frouya. Ils aient fait le croûte, là, t'as. Hak, ils aient fait le croûte. Tiens.
Bah écoutez, bon match et surtout bonne vente.
Merci monsieur, merci. Mais s'il vous plaît, quelle chaîne ?
France Inter, Radio France.
Radio France, d'accord. Ils m'ont refusé mon visa, les Français. Hein. Ils m'ont l'a donné deux fois. La troisième fois, elle a été refusée, je ne sais pas pourquoi.
Moi, je m'appelle Farid.
Farid, et tu es supporter de quelle équipe ?
L'USM d'Alger.
Donc l'USM d'Alger, c'est un des grands clubs de la capitale ?
Bien sûr. Ici, en Algérie, il y a Mouloudia d'Alger, après il y a l'USM d'Alger.
Les derbies d'Alger, il y a beaucoup de monde ?
Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Surtout l'MCA d'Alger contre l'USM d'Alger. Ah, c'est incroyable, voilà.
Et là, les gens, alors il y a beaucoup de jeunes, évidemment. C'est un des principaux loisirs pour les jeunes, pour s'expliquer
Oui, pour tout. Parce qu'ici, en Algérie, il n'y a pas beaucoup, comment dire, pour... amuser, tu vois.
Avoir des loisirs.
Oui, comme ça.
Et donc le foot, aller au stade, c'est le loisir pour les jeunes.
Et pour nous, c'est sûr. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu peux faire ? Il n'y a rien. Tu viens voir match, tes meilleurs joueurs.
Et donc ici, on est aussi, on est loin de la politique, on est loin des problèmes.
Non, on est loin de tout. Surtout maintenant, on n'a pas des gros problèmes, tu vois. Il n'y a pas des agressions, il n'y a rien, tu vois. J'ai mon téléphone dans ma main, j'ai de l'argent, j'ai tout. C'est bon.
C'est bien qu'au niveau de la sécurité, ça va.
C'est bon, ça va, ça va. Ça marche.
Au milieu de notre discussion avec des supporters, un policier en civil nous interrompt.
On est venu pour les élections. On est venu pour les élections. Voilà. Et donc on est resté deux jours de plus.
Élections législatives.
Ouais, voilà.
On couvre les élections.
Ouais.
Mais pas le stade, pas le match.
Bah mais on va pas rentrer, on va rester là.
Non. C'est interdit.
À Alger, c'est interdit ?
C'est interdit. Vous avez là, couverture médiatique des élections législatives du 4 mai.
Ouais.
Pas le match.
On peut parler aux supporters. On peut parler aux supporters un petit peu ?
Non, vous pouvez pas. Désolé.
Parce que c'est, ça pose problème ?
Oui. L'autorisation. Il faut mettre ici pour couvrir le match de l'USMA. Là, vous avez que la couverture médiatique des élections législatives.
Parce qu'ils nous, ont dit au centre de presse qu'on pouvait rester, qu'on pouvait faire des reportages, tout non. Ça. On a été à la Grande Mosquée ce matin et non. Tout ça. Non.
Bon, bah écoutez, tant pis. D'accord, bah écoutez, tant pis. Hein.
On s'excuse.
Bah oui.
رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يهنئ الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون ويؤكد فتح آفاق جديدة وبناء مصالح متكافئة المنفعة.
Dans ce système politique verrouillé, la presse algérienne ne ménage pas ses critiques contre l'incurie du gouvernement ou le poids étouffant des services de sécurité. Chaque jour, les caricaturistes dans les journaux s'en donnent à cœur joie pour brocarder la fin de règne crépusculaire du président Bouteflika. Certains jeunes journalistes enragent devant la gérontocratie au pouvoir et l'apathie politique générale.
Je m'appelle Khaled Rahini, je suis journaliste, je dirige la rédaction francophone de Chourouk, la chaîne de télé. Chourouk est la première chaîne de télévision privée qui a été créée en Algérie grâce au printemps arabe, c'était fin 2011. Et aujourd'hui, c'est l'une des chaînes les plus regardées du pays avec Nara TV. Et moi, je dirige la rédaction francophone que j'ai créée il y a deux ans, un JT quotidien à 19h et une émission de débat hebdomadaire qui s'appelle Place au débat.
Alors les élections législatives, c'est quoi l'enjeu ?
Il n'y en a pas. C'est une élection qui n'intéresse pas les gens. C'est l'élection qui attire le moins d'électeurs par rapport à la présidentielle et aux élections locales qui attirent beaucoup plus de gens. Les gens ne croient plus en la politique, en particulier les jeunes. Et on a un véritable front pour le boycott qui est en train de prendre forme grâce à des youtubeurs, à des militants sur Internet qui récoltent près de 4 millions de vues. Je pense que c'est eux qui ont gagné cette bataille, cette campagne électorale.
Et alors justement, qu'est-ce que ça vous inspire ? Un président de la République française, 39 ans, en pleine forme, et ici, un président, malheureusement, 80 ans, très affaibli, quasiment incapable d'exercer ses fonctions. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de contraste très fort des deux côtés de la Méditerranée ?
Ben, c'est ce qui afflige beaucoup d'Algériens, et ce n'est pas seulement quand ils voient Emmanuel Macron, lorsqu'ils voient n'importe quel chef d'État valide, qui bouge, qui voyage, qui agit, qui prend des décisions, qui dirige, qui gouverne, ça nous renvoie à l'exemple qui est chez nous, avec le président de la République qui n'a aucune activité depuis plusieurs années maintenant. Par exemple, il a reçu le président congolais, Denis Sassou Nguesso, il n'a pas dit un mot en 40 minutes. Le président congolais parlait tout seul, il n'a pas reçu le premier ministre français Bernard Cazeneuve. Tout retombe sur le premier ministre, qui est quasiment le président de facto du pays, mais qui passe son temps à faire des blagues. Donc on est très inquiet sur la manière dont l'Algérie est gouvernée, il ne faut pas le cacher.
Est-ce que le scénario de la succession est déjà prévu ou il y a un grand point d'interrogation ?
Un très, très grand point d'interrogation, parce que la succession, c'est ce qui fait parler beaucoup de personnes ici, que ce soit les Algériens, que ce soit les partenaires étrangers qui s'inquiètent. L'Algérie est un pays important, c'est un pays noyau du Maghreb, d'Afrique du Nord, des relations avec l'Europe. Donc on ne sait pas comment peut se dérouler cette succession. On sait par contre qu'il y a beaucoup de candidats à cette succession, notamment le Premier ministre, notamment Ahmadou Yahia, ancien Premier ministre. Beaucoup de personnes concourent pour cette présidence, mais pour l'instant, rien n'est connu, rien n'est sûr.
Avec un président fantomatique, une chute des prix du pétrole, où va l'Algérie ?
En fait, on est très inquiet. Depuis 2-3 ans, lorsqu'on voit ce qui se passe au Venezuela, on est très inquiet. Parce que l'Algérie est un pays qui tire toutes ses richesses du pétrole et du gaz naturel. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus un pays avec un baril à $100 comme c'était le cas en 99. D'ailleurs, c'était une conjoncture qui avait beaucoup profité au président Bouteflika. C'est pas sa politique qui a fait tout ça, c'est l'argent qui existait à ce moment-là. La grande question est ce qu'on va faire. Le gouvernement promet de sortir du diktat du pétrole depuis maintenant 15 ans. Rien n'a été fait. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, printemps arabe dans nos voisins, ce qui se passe passe au Venezuela, dans le pays pétrolier, on s'inquiète beaucoup aujourd'hui.
Ce qui est paradoxal, c'est qu'en même temps, le discours est libre. On peut parler librement en Algérie, comme on le fait maintenant.
C'est peut-être un des plus grands acquis de l'Algérie démocratique, c'est ça. Les acquis, c'est essayer d'écrire tant qu'on veut. Il y a des lignes rouges. Moi, je suis journaliste, je travaille dans un média privé, j'ai travaillé dans un média public. Je pense que notre ennemi, c'est l'autocensure. Notre ennemi, c'est les lignes rouges. Il faut savoir flirter avec ces lignes. Il faut être subtil, il faut être intelligent, ne jamais se dire « je ne dois pas parler » parce que un peu de liberté vaut mieux que pas de liberté du tout.
Qu'est-ce que vous retenez finalement de ces années Bouteflika? Il est au pouvoir depuis 1999.
Je crois que Bouteflika n'a pas profité de trois choses, au moins qu'on a vues en Algérie.
Nasser Djabi, sociologue.
Primo, il y avait beaucoup d'argent. Il pouvait faire mieux dans le domaine de la diversité économique, dans le domaine des choix économiques. Ça n'a pas été fait. C'est-à-dire on est resté sur le même élan, sur le même stade. La deuxième chose, Bouteflika n'a rien fait au niveau qualitatif. En venant en 1999, les gens pensaient que Bouteflika va changer un peu le fonctionnement du système. Lui qui connaissait le système, qui était un enfant du système. Donc on s'attendait à qu'il fasse des choix qualitatifs, c'est-à-dire plus de démocratie, plus d'ouverture, plus de moins de présence, c'est-à-dire plus de possibilités de liberté pour les Algériens. Ça n'a pas été fait, ça n'a pas été fait. Et les Algériens, le troisième point, les Algériens sont devenus plus sages. Avec l'expérience qu'ils ont vécue dans les années 90, ils sont devenus plus pragmatiques, plus grande tendance à la négociabilité en posant des problèmes économiques et sociaux gérables. C'est-à-dire les Algériens, dans les années 2000, ils posaient le problème du logement, du chômage, du bien-être, d'une vie meilleure, ils n'ont pas eu.
Mais qu'est-ce qu'ils posent aujourd'hui alors, comme question ?
Jusqu'à maintenant, ils sont encore dans cette logique. Parce que, par rapport aux années 90, où on posait des problèmes culturalistes, des problèmes religieux, problèmes d'identitaire. Donc c'était des problèmes non négociables et difficiles à gérer. Maintenant, les jeunes posent des problèmes concrets, des problèmes à caractère syndical parfois. C'est-à-dire ils veulent avoir plus d'emplois, ils veulent avoir un logement décent, ils veulent avoir un travail décent, une ville mieux gérée, une administration publique mieux gérée. Tout ça, c'était possible pour pendant 15 ans. Le quatrième point, le monde extérieur pousse l'Algérie à améliorer son fonctionnement du système politique, fonctionnement du système économique, et ça n'a pas été fait. C'est-à-dire le monde ne pousse à changer, nous, le système n'a pas voulu changer en fin de compte. Il organise comme en 2017 des élections d'un autre âge.
Est-ce qu'il en relève ici?
Oui, il y en a, mais tout est bloqué. C'est-à-dire c'est une génération qui est là depuis les années 50 et qui bloque tout. En termes politiques, l'élite politique en Algérie, on peut être jeune à 60 ans. C'est-à-dire, on nous présente des alternatives, des gens qui peuvent éventuellement prendre la place de Bouteflika, mais qui ont maintenant 70 ans. Parce qu'ils ont tardé, parce que c'est une génération sandwich un peu. C'est une génération qui n'a pas pu avoir sa place, son temps politique. Donc, parce que la vieille génération est restée trop longtemps.
Donc Emmanuel Macron, c'est impossible ici.
Jusqu'à... On peut avoir un Giscard d'Estaing, peut-être, ou un Chirac, mais pas Macron. Malgré que dans les partis politiques, dans les associations, au niveau gouvernemental, on a des jeunes, de jeunes hommes, femmes politiques. Le niveau scolaire des Algériens, les Algériens, maintenant, on a un taux de scolarité de 98%. On a un grand chômage chez les universitaires, des médecins, des avocats, des ingénieurs qui sont en chômage. Donc le niveau scolaire est monté. Et on a des qualifications extraordinaires. Donc chez cette génération,
de 40, 50, 30 ans, qui peut être une bonne relève pour l'ancienne génération.
Donc pour vous, le président Bouteflika mourra au pouvoir?
Apparemment, il n'a, enfin, apparemment, c'est ça. Hein. On est dans cette logique.
Je peux ouvrir.
Salam alaikum, c'est Sadak Bouzino. Sadak Demokratos, le nom du groupe c'est Demokratos. Donc enchanté, marhaba bikoum, bienvenue.
Vous n'êtes pas d'Alger, vous êtes d'Oran.
Oui, je suis de Ouharn.
Vous êtes artiste, musicien.
Ah oui, j'ai commencé en 2006 avec un groupe de rap. Et en 2011, j'ai créé mon propre groupe qui s'appelle Demokratos, qui veut dire « il n'y a pas de démocratie voilà. ». Et j'ai déjà jamais voté parce que je sais pas sur qui je vais voter, pour qui je vais voter, c'est quoi le programme. Il y a aucune information. On a des images. On n'a pas de programme. On a des affiches. Il y a des gens qui sont cachés, qui veulent vraiment faire des choses bien, qui méritent être des élus, être des personnes qui représentent le pays. Malheureusement, ces gens-là, voilà, ils sont un peu écartés. Ils sont parce qu'ils ont des choses à dire qui sont contre la médiocrité. Donc, possible qu'un jour je vais changer d'avis parce que je vais trouver que il y a quelqu'un qui est sincère. Possible que je l'ai connu, mais quelqu'un que je ne connais même pas, qui est là seulement pour avoir du pouvoir. Je ne peux pas voter pour parce que c'est une responsabilité finalement.
Et les jeunes, en général, ici, ils sont plutôt démobilisés, ils cherchent d'autres voies. C'est quoi l'ambiance?
Les jeunes, il y a des jeunes qui s'engagent dans la politique. Il y a des jeunes qui, la majorité, ne s'engagent plus. Ils s'engagent surtout dans la société. Et ça fait plaisir de voir les jeunes qui bougent dans la société civile, dans les associations, qui combattent pour changer leur vie. C'est pas vraiment changer ou faire une révolution, c'est pas du tout ça. Nous, on a compris ça. Donc surtout, c'est qu'on a les mêmes besoins, qu'on veut vraiment vivre ici. Tu vois, pourquoi moi je rêve toujours d'aller ailleurs? Pourquoi je resterai toujours lié à l'étranger ou à des choses que possible je n'aurai jamais l'occasion de les vivre? Donc pourquoi pas vivre ici? On ne fait plus confiance, on ne vote pas, mais on essaye de bouger, on se débrouille.
Et vous, c'est la musique par exemple?
Moi c'est la musique. Donc grâce à la musique, j'ai fait plein de trucs, j'ai eu beaucoup d'opportunités, des formations. Tu vois, par exemple Power of Music en 2013 aux États-Unis, j'ai eu l'occasion de sortir pour la première fois à l'étranger, c'était grâce à ça. Je suis parti avec 8 musiciens du monde arabe, 8 artistes, 8 leaders. J'ai fait cette formation. Donc ça m'a permis de sortir la première fois. J'ai fait des milliers de demandes pour l'Europe, pour aller découvrir ou pour jouer ou pour voir. J'ai jamais eu. Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'attirance, avec comment on appelle ça, le cumul. Donc on croit que tout va bien ailleurs, que tout est beau, que tout est facile et tout ça. Et en réalité, après, on ne trouve aucune solution que prendre une barque et partir et mourir au milieu de la mer.
Vous n'avez jamais songé à partir, je demande, d'Algérie, à quitter l'Algérie, comme de nombreux jeunes algériens le font?
Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, on est avec ça, normalement. Je suis un Algérien et j'ai grandi avec ça. Pour nous, c'est être un héros, quelqu'un qui prend une barque ou qui fait sa vie ailleurs. Pour nous, c'est réaliser un rêve de partir ailleurs. Parce que selon nos besoins, selon ce qu'on a besoin de vivre, par exemple être un grand artiste ou être un grand peintre, c'est pas du tout en Algérie. Parce qu'en Algérie, une fois que tu es algérien et tu es un artiste peintre, même si connu, tu vas dans un marché, on te sous-estime. On n'est pas assez valorisé dans notre pays. Mais par contre, avec le temps, ma pensée, elle a vraiment changé. Et c'était après qu'un groupe d'amis et de voisins étaient morts à la mer. Donc, ils voulaient partir en Espagne, Cartagena. Ils ont pris une barque, ils sont partis. Tout était OK. Donc, ils avaient leur GPS. Et après, on a une information qu'on a trouvé un corps là, et encore là, et encore là. Et c'était un ami à moi qui était mort parmi eux, qui s'appelle Moussa Safir. Et après, même dans ma direction de pensée, dans ma musique, avant, j'étais vraiment très enragé. J'étais toujours avec, on doit partir. Ici, c'est la merde. Désolé pour le mot. Ici, c'est n'importe quoi. Ah là là là. Mais après, avec le temps, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois? On ne va pas mourir au milieu de la mer. On va trouver une solution. On essaye de trouver une solution. C'est notre pays. Tu vois? Il faut combattre. Il faut vraiment faire quelque chose pour soi et pour son entourage, pour sa famille. Voilà. On n'est pas obligé de bâtir des rêves qui sont plus grands que nous et tout ça. Mais en même temps, il faut essayer.
Algérie, ce jeune pays que les vieux gouvernent. C'était un reportage de Christian Chéneau. Prise de son, Pierre Quintard. Mixage, Manuel Couturier. Interception a été réalisée par Anne Lureau avec le concours d'Élise Hamchin. Lucille Valérie a fabriqué tout spécialement pour vous cette semaine notre page internet. Je vous souhaite une très bonne journée.